Merci d'écouter France Inter, il est 19h21.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur les sondages qui n'avaient rien vu venir. Brexit, Trump, Clinton, Fillon, Juppé, Sarkozy et dans une moindre mesure à Montvals, Montebourg. Bingo, les sondeurs ont tout réussi. Sondeurs, non masculins. Et je cite notre confrère Fabrice Arfi de Mediapart sur Twitter. Métier consistant à prédire avec une marge d'erreur ce qui de toute façon n'arrivera pas. Fin de la définition. La critique des sondages n'est pas nouvelle, vous le savez, mais ces ratés suscitent une défiance de grande ampleur, au point qu'on peut se demander si cet instrument imparfait n'est pas désormais capable et incapable même incapable même de fournir la fameuse photographie de l'opinion à l'instant T. Beau sujet ce soir, soyez les bienvenus dans le Téléphone Sonne.
Nicolas Demorand, le Téléphone Sonne.
Et vous pouvez nous joindre via Twitter avec le mot-clé Telson sur le site internet de France Inter, franceinter.fr et au standard 01 45 24 7000. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue.
Merci. Donc ma question, elle porte pas sur les sondeurs, mais sur les sondés. Je m'explique, je voudrais savoir qui sont les sondés, comment sont-ils recrutés, quels sont les critères, et puis est-ce qu'ils sont rétribués ?
Merci Alain pour ces questions. Pour vous répondre, Gaël Sliman et Bruno Jambard sont en studio à Paris. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Gaël Sliman, président cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa. Bruno Jambard, directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. Nous sommes en duplex depuis les studios de France Bleu Hérault à Montpellier avec Jean-Yves Dormagin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Montpellier 1 et à l'école normale supérieure. Qui veut répondre à la question de notre auditeur, Gaël Sliman ?
Oui, si vous voulez.
Qui sont les sondés ?
Alors, c'est une bonne question. Les sondés, c'est un modèle réduit de la population mère. C'est-à-dire, en l'occurrence, quand on parle de sondage auprès des Français, un modèle réduit de la population française, construit en France, à la différence de bien des études, de la plupart des études faites aux États-Unis et en Grande-Bretagne, selon la méthode des quotas en France. Ça veut dire la même proportion de jeunes, de femmes, d'ouvriers, de cadres, que ce que l'on observe dans le recensement de la population française effectué par l'INSEE. Donc c'est vraiment un modèle réduit de la population française, ce qui nous permet d'ailleurs de dire, à travers une enquête représentative auprès, par exemple au hasard, de 1000 Français, les Français pensent que, même si parfois ça agace et qu'on nous dit « mais pourquoi vous ne dites pas les sondés pensent que ?» Parce que le principe du sondage, c'est ce qu'on appelle l'inférence statistique, c'est-à-dire que ce que l'on observe dans l'échantillon correspond à ce que pense l'ensemble de la population française à une marge d'erreur statistique près que l'on connaît, qui est calculée et qui correspond en gros, quand on est sur 1000 personnes, à plus ou moins 3 points.
Bruno Jambard, comment les contacte-t-on ces sondés, demandait notre auditeur.
Il y a beaucoup de manières différentes de les contacter. Il y en a trois principales. Hein. On peut les interroger en face à face, à leur domicile. C'est une méthode qui est de moins en moins utilisée parce que c'est de plus en plus complexe d'accéder au domicile, hein, avec les digicodes, avec aussi un certain nombre de quartiers dans lesquels il est difficile aussi pour d'envoyer des enquêteurs. C'est aussi très cher, donc ça a beaucoup diminué. Deuxième méthode, le téléphone.
Fixe c'est une ou portable ?
Alors, historiquement fixe, mais depuis pas mal d'années, portable aussi. Portable, ceci étant, avec une limite, c'est qu'aujourd'hui, sur les enquêtes locales, on ne peut pas faire du téléphone mobile, ce qui est une difficulté. Donc, sur des enquêtes nationales, sans problème. Et aujourd'hui, les échantillons sont en général composés à moitié de fixe, à moitié de mobile. Et puis, troisième méthode qui arrive à partir des années 2000, Internet, où on interroge des gens qu'on contacte, on leur envoie un email pour leur demander de répondre à un questionnaire. Donc, on les choisit là aussi. C'est de la même manière, hein, nous qui les contactons. Et après, ils viennent répondre à un questionnaire sur les mêmes critères et les mêmes principes.
Jean-Yves Dormagin, en duplex donc de Montpellier, dans les studios de France Bleu Hérault, vous souhaitez intervenir sur cette première question ou sur les premières réponses ?
Non, enfin, la description qui vient d'être faite des échantillons, effectivement, une manière de les présenter assez classique. Je crois qu'il faut préciser quand même que ces échantillons ne sont pas complètement représentatifs et que sous beaucoup de paramètres, ils ne peuvent pas prétendre représenter la population mère dont parlait Gaël Sliman. On l'a bien vu avec les derniers résultats en matière d'intention de vote, où l'écart à la réalité est quand même très important.
Agnès, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez, je crois, de Marseille.
Oui, tout à fait.
Bienvenue.
Merci de m'accueillir. Voilà, ce que je voudrais dire avant de poser ma question, c'est que je trouve profondément injuste et dangereux de mettre en cause les instituts de sondage en disant qu'ils se sont trompés, parce que leur rôle n'est pas de prédire le résultat d'une élection, mais de faire état d'une intention de vote.
Vous avez été coupé, ce n'est pas le lobby des sondeurs ou des anti-sondages qui ont été à la manœuvre. On va essayer de vous joindre à nouveau, Agnès. Gaëlle Sliman, les instituts n'ont pas vocation à prédire, mais à photographier en substance.
Écoutez, la remarque de cette auditrice est très intéressante. Je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure par rapport aux propos que vous évoquiez sur Twitter, amusant, de Fabrice Arfi. Oui, il y a un grand malentendu sur les sondeurs se sont plantés, regardez Trump, regardez le Brexit, regardez Fillon, regardez Hamon. Ce que disait l'auditrice est tout à fait exact. Nous, notre métier, le chiffre qui est produit par le sondage, consiste à décrire un phénomène, un comportement ou une opinion qui vient de se produire. Donc, on est de plus en plus capable de décrire un comportement dont le passé n'est pas si loin, du temps où mon collègue évoquait les enquêtes face à face ou par téléphone, du temps où celle-ci était généralisée. Parfois, il y avait une semaine, cinq jours d'écart entre le moment où on faisait la mesure et le moment où
on produisait
le sondage.
Quand vous ne voyez rien la veille, c'est ça la question.
Alors, je vais y répondre. Aujourd'hui, on a 24 heures d'écart. Ensuite, qu'appelle-t-on ne rien voir ? Moi, vous savez, j'étais déjà sondeur en 2002, au moment du 21 avril 2002. Au moment du 21 avril 2002, si on remonte dans les archives, on pourrait écouter ce que j'en racontais, il y avait eu un plantage des sondages. C'est-à-dire qu'il y avait eu une incapacité patente à représenter ce que comptaient faire les Français en termes d'intention de vote, avec des marges d'erreur statistiques qui n'étaient pas si fortes, mais avec un écart qui a produit des résultats que vous connaissez, qui étaient désastreux. Cette fois-ci, non. Si vous prenez les enquêtes d'opinion que nous avons réalisées à Odoxa et bien d'autres au cours du mois écoulé, ces enquêtes montraient la dynamique de Benoît Hamon. Elles n'ont pas vocation à établir un pronostic. Il en était de même sur François Fillon, dans cette même maison de la radio. On a un rendez-vous avec France Info, vos amis de France Info, toutes les semaines. Eh bien, à 10 jours du premier tour, on alertait sur la dynamique Fillon. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le chiffre du sondage, et après vous avez ce qu'en fait le sondeur, c'est-à-dire est-ce que nous sommes capables d'alerter sur ce que nous savons à partir de nos chiffres et ce que nous ne savons pas. Ce que nous savions sur la primaire de droite, c'est qu'il y aura une très forte participation à plus de 4 millions de personnes. Ça s'est vérifié. Ce que nous savions, c'était qu'il y avait un rejet massif de Nicolas Sarkozy, quoi qu'en témoignent les réseaux sociaux ou les files d'attente pour se faire dédicacer des livres. Donc ça, on le savait. En revanche, nous n'avions jamais dit, à aucun moment, que Alain Juppé était assuré de l'emporter au prétexte qu'il a été pendant très longtemps largement en tête des sondages.
Votre argument est tout de même un tout petit peu spécieux. Je développerai Gaëlle Sliman tout à l'heure, mais je préfère faire circuler la parole. Jean-Yves Dormagin.
Oui, je suis d'accord avec vous. L'argument est un peu spécieux. Je pense que les sondeurs devraient plutôt reconnaître que leur instrument est assez imprécis, ce qui n'est pas forcément en soi dramatique. Je crois que cette manière de se défendre en disant que c'est une photographie à un instant T et que entre le moment où la photographie a été prise et le scrutin lui-même, les électeurs ont changé d'opinion, est un argument un peu facile qui permet effectivement de justifier tous les écarts à la réalité. Si on faisait des sondages,
Attendez, laissez-moi terminer. Si on faisait des
sondages le jour du scrutin. D'ailleurs, certains sondages ont lieu le jour du scrutin, mais ne sont pas publiés ou très rarement. Mais si on faisait des sondages le jour du scrutin, on pourrait effectivement vérifier le niveau de précision qui est revendiqué. Je rappelle par exemple que pour le Brexit, il y a eu deux sondages qui ont été faits le jour même du scrutin, et ces deux sondages se sont trompés puisqu'ils donnaient le Remain gagnant avec 6 points d'écart d'avance pour l'un d'entre eux le jour même de l'élection. Donc faisons ça. Si vous êtes si certain de la précision de votre technologie, je vous propose, lance même l'invitation de faire un sondage le jour de l'élection présidentielle, au premier tour. Non, attendez.
Donner les résultats
à 18h du scrutin, à 18h avant qu'on ait les estimations. Parce que là aussi, il y a une confusion qui est souvent entretenue entre les sondages et les estimations. Vous savez très bien que les estimations qui sont données à 20h ne sont pas un sondage, en tout cas pas un sondage au sens classique et traditionnel du terme. Donc si vous êtes certain de la précision de votre outil, sur France Inter, à 18h, ou sur un autre média, peut-être que Nicolas Demorand est partant, résultats de l'élection présidentielle, donnez-nous les résultats du premier tour, et on pourra vérifier la précision revendiquée que vous revendiquez pour l'instrument que vous défendez aujourd'hui.
Gaëlle Sliman.
Je disais, c'est déjà fait, et je crois que vous, Nicolas Demorand, l'avez reçu, ce sondage, sur la primaire de droite, en tout cas un certain nombre de personnes à France Inter l'ont reçu, sur la primaire de la droite, vous regarderez, c'est disponible sur notre site internet, nous avons interrogé le samedi toute la journée du samedi pour 90% des interviews et 10% le dimanche, les électeurs de la primaire de la droite, et ça donnait 36% à Fillon, donc vous voyez, avec une dynamique très forte, 31% à Juppé et 23% à Sarkozy à la baisse, avec une tendance qui montrait que Fillon pouvait atteindre la barre des 40, il a fait 44, je vous l'accorde, mais vous voyez cet élément de preuve qui est ici demandé existe déjà, et bon, j'en parle au nom de Doxa, mais je pense que c'est pareil pour mon confrère d'Opinionway, ça existe déjà. Et encore une fois, notre vocation...
Et pourquoi pas donc le faire au premier tour de la présidentielle, vous le faites déjà ?
Mais c'est fait aussi. C'est fait aussi.
Et cela, vous ne les publiez pas ?
Ils sont déposés à la commission des sondages et vérifiables.
Jean-Yves Dormagin, sur ce point ?
Et sur notre site internet.
On pourra faire... Moi, je ne suis pas... Enfin, que les choses soient claires, je ne suis pas là pour... attaquer de manière systématique les sondages, j'en utilise. Simplement, je pense que c'est un instrument qu'on gagnerait à apprécier, à recevoir de manière un peu plus raisonnable, sans lui demander plus qu'il ne peut produire.
Absolument,
et en particulier, en l'occurrence, une précision technique qu'il n'a pas. C'est-à-dire que l'écart, c'est pas du tout récent. On croit que c'est récent parce qu'il y a eu quelques gros accidents industriels, parce qu'effectivement, pour des scrutins serrés de très importants, tels que la dernière élection présidentielle ou le Brexit, il y a eu un écart important, avec surtout des effets politiques considérables entre les sondages publiés, y compris le jour même, et le résultat du scrutin. Mais en réalité, l'erreur, si vous voulez, l'imprécision des sondages, elle est très ancienne. Vous reprenez toutes les élections présidentielles et vous verrez qu'en moyenne, sur les 3-4 premiers candidats, il y a toujours une dizaine de points d'écart entre le dernier sondage publié et le résultat du scrutin. Simplement, quand un point d'écart ou deux points d'écart change le résultat de l'élection, et permettre la victoire d'un Donald Trump avec le système très particulier en vigueur aux États-Unis ou un Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, là tout le monde s'aperçoit que l'instrument est beaucoup moins précis que ce qui est revendiqué généralement. Mais c'est pas dramatique d'être imprécis, il faut simplement l'accepter, l'assumer et
le postuler,
prendre
oui, bien
pour ce qu'ils sont.
Bruno Jambard, puis Gérard au Standard.
Non, je pense qu'il y a effectivement une nécessité de bien faire comprendre qu'un sondage ne va pas donner le résultat d'une élection au point précis, même s'il est réalisé le jour même. Et ça, c'est une vraie difficulté qu'on a tous, dont on est probablement en tant que sondeur responsable, on n'a pas réussi à faire passer ce message, et on a besoin de mieux l'expliquer. Il y a une marge d'erreur qui est naturelle dans un échantillon, il y a en plus une marge d'erreur supplémentaire, parce que comme l'a dit Jean-Yves Dormagin, les échantillons ne sont pas parfaits, ils ne seront jamais. Maintenant, il faut aussi bien lire les sondages en termes de tendance. Il y a une focalisation sur la question des intentions de vote, mais ça ne représente qu'une petite partie de notre travail quand on essaye de comprendre ce qui se passe dans l'opinion. Quand on fait une enquête sur, par exemple, la primaire ou une élection, en général, il y a une dizaine de questions dont une ou deux concernent les intentions de vote. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne retienne que cette partie-là et qu'on ne se focalise que sur cet aspect-là des choses.
Comment analysez-vous, dernier tour de table avant de retourner au standard, ce qui s'est passé aux États-Unis, Gaël Sliman.
Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est d'abord...
La victoire de Trump, la défaite de Hillary Clinton.
Alors, c'est d'abord aux États-Unis, sur les sondages nationaux. Finalement, quand on compare le résultat final avec ce qu'indiquait la dizaine ou la quinzaine de sondages dans la semaine précédant le scrutin, un résultat assez conforme. Je rappelle que finalement, Hillary Clinton, au niveau national, se situe 3 points devant Donald Trump, quasiment. En revanche, aux États-Unis, il y a un mode de scrutin particulier avec les grands électeurs qui fait que ce qui fait la décision, c'est pas tellement d'être premier au niveau national, ce sont les scores de chacun dans les swing states, dans les états clés. Et de ce point de vue-là, il y a eu objectivement des sondages qui ont été très erronés, très imprécis au niveau de ces fameux swing states, avec des marges d'erreur qui ont été explosées. Et du coup, ce sont ces sondages-là qui étaient erronés dans les swing states, qui ont produit ce sentiment, même plus qu'un sentiment, dans les jours qui précédaient le scrutin, que Hillary Clinton allait l'emporter, alors que les sondages au niveau national reflétaient de façon assez juste la réalité. J'ajoute qu'aux États-Unis, ils utilisent une méthode qui est la méthode, le plus souvent la méthode probabiliste ou aléatoire, qui normalement est une très bonne méthode d'un point de vue statistique, sauf qu'elle est très exigeante et très coûteuse. Du coup, ils ont tendance, en fait, à avoir des échantillons qui ne sont pas très représentatifs in fine.
Jean-Yves Dormagin, sur les États-Unis, Clinton-Trump.
Oui, je suis assez d'accord avec l'analyse qui vient d'être proposée. Effectivement, certains états clés ont été très mal sondés. Alors là encore, on retrouve le problème de précision des sondages qui n'est pas propre aux États-Unis, mais qui fait que quand on se trompe d'un ou deux points dans des États très disputés et qui se révèlent décisifs, on finit par avoir un pronostic erroné du résultat du scrutin. J'ajoute que l'électorat Trump est probablement beaucoup plus difficile à sonder que l'électorat d'Hillary Clinton, et que là aussi les échantillons probablement, mais c'est une hypothèse, je les ai pas étudiés directement bien sûr, les échantillons probablement surreprésentaient un peu l'électorat Clinton, plus urbain, plus éduqué, plus féminin, et les sondeurs savent très bien que ce sont des bons clients quand on fait des enquêtes, alors que l'électorat de Trump, plus ouvrier, plus rural, qui ressemble un peu, pour aller vite, à l'électorat de la droite populaire française dans certaines de ses composantes, est beaucoup plus difficile à sonder. Parce que c'est un autre problème des sondages. Les échantillons, non seulement ne sont pas complètement représentatifs, ils sont même relativement biaisés, et ont du mal en particulier à atteindre certaines catégories de la population, ont du mal à atteindre les personnes âgées, très âgées, ont du mal à atteindre les ouvriers, ont du mal à atteindre les non-diplômés. Vous savez par exemple que si vous prenez un échantillon représentatif de sondeurs, vous avez à peu près deux fois trop de diplômés du supérieur dans un échantillon moyen aujourd'hui d'un institut de sondage. Donc évidemment, ça pose un problème parce que ces gens ne votent pas comme les autres. Et en particulier aux États-Unis, ils votent plus Clinton que Trump. Et du coup, pas très étonnant qu'on ait sous-évalué Trump aussi. Enfin, c'est d'une certaine manière un problème de méthode aussi. Hein.
Le sondeur essaye de corriger, d'amender le côté surreprésentatif de tel ou tel, ou la difficulté de tel ou tel camp à dire « je vais voter pour X, Y ou Z », Jean-Yves Dormagin.
Oui, absolument. Tous les sondages sont redressés. Et il y a un écart important entre les résultats bruts, c'est-à-dire ce que dit le fameux échantillon représentatif, et les résultats qui sont ensuite communiqués aux médias, commentés par les acteurs médiatiques et politiques. Par exemple, Marine Le Pen, alors les choses évoluent d'une période à l'autre, son père Jean-Marie auparavant était globalement redressé presque par deux. C'est-à-dire qu'en résultat brut, pour dire les choses, on va dire qu'il faisait à peu près 7-8%, et le sondage publié le mettait autour de 14-15. Pourquoi ? Parce que les électeurs du Front National, les catégories qui votent pour le Front National, sont fortement sous-représentées dans les échantillons, ou bien ne disent pas la vérité. Alors là, vous comprenez, c'est aussi un autre problème. C'est-à-dire que tout ça repose quand même sur des déclarations et sur ce que les gens sont prêts à dire d'eux-mêmes et de leur vote. Donc on a, entre les votes dissimulés, les votes cachés et les problèmes de représentativité, finalement l'outil est imprécis. Mais on pourrait presque s'étonner qu'il ne soit pas plus imprécis que ça. On pourrait défendre la thèse un peu paradoxale opposée de dire qu'avec tous ces problèmes, on est finalement, en général, relativement proche de la réalité, mais avec des marges d'erreur, je le disais tout à l'heure, qui peuvent être quand même de 2, 3, 10 points sur les 3 premiers. Et ça peut changer l'ordre d'arrivée lors de certains scrutins, comme on s'en est aperçu récemment.
Gaël Slimane, puis Gérard.
Alors, ce qui vient d'être dit est très juste sur Jean-Marie Le Pen, c'est exactement ça. On était sur des redressements, moi j'étais encore une fois en poste à l'époque, on était sur des redressements à x2, ça veut dire, concrètement pour que les auditeurs comprennent, que dans notre échantillon en 2002, il y avait deux fois moins de gens qui reconnaissaient avoir voté Le Pen la fois d'avant, parce que c'est là-dessus que se fonde le redressement, que ce que nous aurions dû retrouver au regard de l'élection. Mais les choses ont changé depuis l'usage généralisé des études online. Et aujourd'hui, les catégories qui étaient sous-représentées dans les années 2000 sont parfaitement représentées. Je parle d'un point de vue sociologique. Il y a toujours un biais psychologique dont on pourra parler. Mais au niveau sociologique, les catégories populaires et les électeurs du Front National, par exemple, vous savez aujourd'hui quel est le redressement sur les électeurs du Front National ? En moyenne, il est de 1. C'est-à-dire que vous avez dans votre échantillon exactement la proportion de gens qui reconnaissent avoir voté Marine Le Pen à l'élection précédente. Donc c'est une nouveauté qui est largement permise par l'usage des nouvelles technologies.
Gérard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Vendée, bienvenue.
Oui, alors moi je vais répéter un peu ce qui a déjà été dit, mais je vais du coup compléter par une petite question. En gros, moi, je suis effectivement effaré d'entendre une généralité dans les médias qui disent ils se sont tous plantés. Au final, Hillary avait 2 millions de voix de plus, donc les sondages ne sont pas plantés. Et deux, Fillon, au final, quand on regarde la pente, la courbe de croissance des sondages, ben, on a une tendance qui explique pourquoi il est arrivé au sommet. Ensuite, bah du coup, ça, moi j'ai une autre question par rapport à ça, c'est que les sondages, à la limite, eux, j'ai envie de dire qu'ils font à peu près le job, mais est-ce que c'est pas le système médiatique aujourd'hui qui est très très violent, qui perturbe la donne ? Parce que quand on regarde déjà l'épisode Hillary-Trump, on a bien vu que c'était très violent entre les deux camps, Il y avait des péripéties, des rebondissements complètement fous entre les histoires d'Hillary et puis celles de Trump, les frasques de Trump. Et puis, regardez ce qui s'est passé pour Fillon. Fillon, il était pas du tout partant gagnant. Et puis, les médias ne se sont pas intéressés à lui. Et puis, à un moment donné, il a commencé à grimper. Et là, tout le monde a parlé de Fillon. Je crois qu'on aurait pu avoir le même résultat avec un De Rugy, par exemple, qui était quelqu'un à peu près sérieux pour la primaire de la gauche. Et si quelqu'un, s'il avait dépassé M. Peillon au sondage, tout le monde en aurait parlé, et peut-être que De Rugy aurait été le troisième homme. Voilà.
Merci Gérard pour cette intervention. Alors sur le couple infernal ou pas, je ne sais pas, sondage et média, Bruno Jambard.
Je dirais qu'il y a une difficulté là particulière, effectivement, c'est qu'on est d'abord dans un contexte de volatilité électorale plus forte que dans le passé, il faut le dire, et donc ça rend plus difficile le métier de sondeur. Vous avez une affiliation politique des électeurs qui est beaucoup moindre. Avant, on votait de père en fils communiste, oui, socialiste, ça n'est plus le cas. Donc ça, évidemment, rend plus délicat les mouvements. On voit bien que les mouvements à l'intérieur de chaque camp, pas tellement entre la droite et la gauche, mais à l'intérieur de la gauche ou à l'intérieur de la droite, peuvent être très rapides, très violents d'une élection à une autre.
Et on donc se détermine de plus en plus tard, voire le jour J ou pas ?
On se détermine pas tellement de plus en plus tard, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours ce phénomène de choix tardifs qui existe et qui, dans des scrutins serrés, peuvent aussi éventuellement modifier la donne. Donc ce qui est dit là est assez juste, c'est-à-dire que se rajoute à cela, effectivement, je dirais un univers médiatique, je parle pas de système, mais un univers. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chaînes info, la presse online, tout ça fait qu'on vit dans un univers avec beaucoup plus de médias, beaucoup plus d'informations qui circulent dans tous les sens, et donc automatiquement ça peut aussi accélérer les mouvements. Il est évident que il y a eu par exemple sur la montée de Fillon, qui est une montée qu'on n'a jamais vue honnêtement en moins de 20 ans de sondage, je n'ai jamais vu une progression aussi rapide et aussi brutale, mais elle s'explique aussi en partie par un début de montée qui est souligné par tous, par le fait que tout d'un coup la manière dont on parle de la campagne n'est plus du tout la même. On parle plus d'un match à deux mais d'un duel à d'un match à trois. Le troisième débat ne se fait plus de la même manière, le troisième débat se fait autour de Fillon et plus entre Juppé et Sarkozy, et donc il y a des enchaînements qui sont plus rapides que par le passé, qui rendent aussi la mesure difficile. C'est pour ça qu'il faut toujours rappeler que ce qui est important aussi, c'est de regarder les tendances, les évolutions, tout autant que les niveaux exacts que l'on mesure dans les sondages.
Allez, un détour par France Bleu Hérault à Montpellier, Jean-Yves Dormagin, sur le couple média et sondage.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le problème, si, me semble-t-il, c'est que les sondages aujourd'hui occupent une place trop importante et au détriment certainement du débat démocratique. C'est-à-dire que on voit bien comment les candidats, comment l'enjeu aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout de monter dans les sondages, comment, ainsi que ça vient d'être souligné, ça modifie ensuite le commentaire des journalistes sur les campagnes, sur les hommes politiques, l'importance qu'on leur accorde, leur présence dans le discours médiatique général, etc. On voit bien que quand on l'a vu encore très récemment avec la primaire de la gauche, on voit bien que ceux qui ont des petits sondages, qui sont bas dans les sondages, sont quasiment ignorés, absents des débats, absent des commentaires,
les fameux
etc.
Petits comment candidats.
Comment à l'inverse, exactement, deviennent des petits candidats. Comment cela, évidemment, modifie aussi le vote des électeurs, puisque ceux-ci ont tendance à restreindre leur choix à ceux qui sont éligibles, à ceux qui peuvent gagner. On le voit bien aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron, un institut,
19h44.
Oui, on justement, parce que c'est, allez-y. Parce que je pense que c'est un cas d'école. C'est-à-dire que on voit bien comment aujourd'hui, un certain nombre de commentateurs, de médias, de sondeurs, on s'y travaille à rendre éligible Emmanuel Macron,
expliquez-nous,
qualifiable pour le second tour.
Et on voit... Expliquez-nous, Jean-Yves Dormagin.
Mais quand on fait, un institut de sondage a fait récemment 8 hypothèses différentes de premier tour, hein, jusqu'à trouver l'hypothèse dans laquelle Emmanuel Macron se qualifiait pour le second tour. C'est la seule hypothèse, elle n'était pas spécialement la plus probable, c'est la seule hypothèse qui a été médiatisée ensuite par une chaîne d'infos en continu. Ça a produit une avalanche de commentaires médiatiques, le buzz sur les réseaux sociaux, etc. Donc une opération, si vous voulez, dont on voit bien tous les intérêts qu'il peut y avoir derrière. Quand je dis ça, c'est pas du tout, évidemment, des intérêts concertés. C'est l'intérêt des journalistes de donner une information qui fait le buzz. C'est l'intérêt de l'Institut de sondage d'offrir aux journalistes cette information qui fait le buzz. C'est l'intérêt, évidemment, de Macron et de ses soutiens d'apparaître comme potentiellement qualifiés au second tour. On voit bien tout ce que ça peut produire en termes de vote utile et d'effet sur les sondages à venir. Parce que ça veut dire que tous ceux qui ne veulent pas d'un duel Fillon, Le Pen vont être tentés de répondre Macron lors de la prochaine enquête. Donc Macron va progresser. On voit bien aussi comment le fait hier, j'étais quand même assez surpris, de voir des sondages sur les candidats de la primaire de la gauche qui ont été faits avant même que cette primaire n'ait lieu, en les enfermant dans des scores qui sont des scores réduits d'une certaine manière, conduit à préempter la primaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ces candidats sont déjà condamnés d'une certaine manière à des rangs de candidats moyens, voire de petits candidats, par des sondages qui sont faits avant que les électeurs ne se soient rendus aux urnes. Donc tout ça finit par produire des effets très importants sur le commentaire politique, sur le raisonnement des électeurs, sur les sondages eux-mêmes, et tout un système, toute une machinerie dont il est très difficile de sortir, avec pour conséquence, si on peut dire, que le jeu finit par l'emporter sur l'enjeu, qu'on parle très peu finalement des programmes, des propositions, etc., mais beaucoup de ces enquêtes d'opinion.
Mathieu, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez des Landes, bienvenue.
Merci et bonsoir à tous. Et mon témoignage appuie ce qui vient d'être dit précédemment. C'est-à-dire que pour témoigner sur ce qui m'est arrivé hier, donc je suis allé voter à la primaire d'une manière assez consciencieuse. J'ai épluché les programmes des différents candidats, j'ai regardé par rapport à ma situation, par rapport à la question du chômage, la fiscalité, etc. J'ai fait mon choix, je suis allé voter. Et à ma grande surprise, le lendemain, je vois tous les journaux qui disent le grand vainqueur de la primaire de la gauche est Emmanuel Macron. Alors là, vraiment, ça m'a mis un coup, quoi, parce que finalement, on voit comment les médias dans l'utilisation qu'ils en ont fait qu'ils ont fait des sondages, et je pense qu'ils ont une responsabilité forte. Ils ont d'abord discrédité donc la primaire qui a fait que les gens ils l'ont trouvé inutile, et il y a eu le cas Macron et Mélenchon, mais Mélenchon c'est différent parce que il a une légitimité démocratique depuis 2012, tandis que Macron n'a aucune légitimité.
Pour vous, c'est une bulle, Macron, Mathieu ?
C'est une bulle, mais même, ça en vient presque à se poser des questions, des questions presque complotistes, quoi, parce que c'est on en est là, quoi, si vous voulez.
Qui a créé la bulle, c'est ça, la question complotiste?
Oui, quand on voit tous ces mystérieux soutiens, mystérieux ou pas mystérieux,
des soutiens, en tout cas. On va donner la parole ici, Mathieu, merci pour votre intervention, à Gaël Slimane. Allez-y.
Quelle est la question exactement?
Partez de Macron si vous voulez.
J'entends parler des sondages comme si c'était un phénomène extérieur, comme si c'était quelque chose de totalement exogène. Ce que reflètent les sondages, c'est ce que pensent les gens. C'est-à-dire que quand on interroge les Français et qu'on leur demande quelle opinion ils ont de tel ou tel homme politique et s'ils apprécient celui-ci plutôt que celui-là, à un moment donné, vous en profitez, vous appelez Emmanuel Macron. Mais vous savez, qui a vécu par les sondages, périt par les sondages. En l'occurrence, Nicolas Sarkozy a été, à un moment donné, au fait des sondages, et puis il s'est effondré. Et puis François Bayrou aussi, et Ségolène Royal aussi. Les sondages, c'est ce que vous en faites, c'est l'opinion, c'est le juste reflet de ce que pensent les personnes à un moment donné. Ensuite, sur la coproduction médiatico-sondagière, puisque c'est un petit peu ce qui était décrit. Moi, je souscris à un des éléments qui était indiqué, qui consiste à dire que mesurer la perception des choses, je trouve ça intéressant. C'est mon métier, je trouve ça très intéressant. Mais c'est vrai que ça ne peut pas se suppléer au travail de fond journalistique. Alors, si l'on estime que les journalistes passent trop de temps à commander des enquêtes d'opinion pour savoir comment les Français perçoivent les choses, et pas assez de temps à analyser par eux-mêmes le programme des candidats, à faire du fact-checking, à regarder ce qu'ils proposent... Ça, c'est un débat que je trouve légitime. Mais c'est un petit peu idiot, me semble-t-il, d'opposer les deux. Parce que si vous n'aviez pas de sondage, on utiliserait, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit parfois, on utiliserait d'autres éléments nettement moins fiables pour essayer de savoir, dans la course de petits chevaux, qui est devant. Et on utiliserait les réseaux sociaux, qu'on utilise beaucoup à Odoxa, comme un élément qualitatif, mais qui, en tant que tel, ne sont pas forcément un juste reflet de ce que pensent les Français. Je rappelle que si on s'était fondé sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur les dédicaces de livres, ou sur le nombre de personnes en meeting, eh bien, on aurait tous imaginé que Nicolas Sarkozy allait gagner la primaire de la droite au premier tour.
Jean-Yves Dormagin, comment recevez-vous le témoignage de Mathieu, qui a fait son travail, en quelque sorte, de citoyen, qui a lu les programmes et qui, le lendemain, voit que l'ensemble de la morale tirée du premier tour de la primaire, c'est que c'est Emmanuel Macron qui l'a gagné.
Mais je comprends un peu son désarroi, j'en ai parlé auparavant, c'est-à-dire que la question, je l'évoquais tout à l'heure, je veux dire, faire un sondage sur des intentions de vote en testant les candidats à la primaire, avant même que cette primaire n'ait eu lieu, avant qu'on sache combien d'électeurs, alors... Bon, je vois bien, je sais bien que le sujet peut prêter à sourire ce soir d'ailleurs. Mais enfin, bon, avant même qu'on sache combien d'électeurs se sont déplacés, avant qu'on connaisse les rapports de force entre eux, etc., vous voyez bien que d'une certaine manière, c'est enfermer ces candidats dans ces enquêtes qui sont décontextualisées, qui donnent en effet Emmanuel Macron très haut, qui donne Jean-Luc Mélenchon très haut. Le débat hier soir sur les plateaux, c'était de savoir si Benoît Hamon devrait se retirer en faveur de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Valls en faveur d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien comment effectivement le débat est corseté et contraint par cette manière d'utiliser les sondages. Alors effectivement, les sondeurs peuvent toujours, et sans doute à juste titre, dire qu'ils ne sont pas responsables de l'usage qu'on fait de leurs enquêtes. On sait aussi quand même, quand on connaît ce milieu et quand on connaît les sondages, tout le plaisir qu'il y a à sortir un sondage qui fait le buzz et tout le plaisir qu'il y a à être le premier à annoncer que Emmanuel Macron sera, par exemple, au second tour de l'élection présidentielle. C'est évidemment pour le sondeur et son institut l'assurance d'une publicité très importante. Donc il y a quand même, si vous voulez, effectivement, c'est le couple qu'il faut interroger. C'est un couple qui aujourd'hui probablement a tendance, je crois, à trop utiliser ces enquêtes, à leur donner trop d'importance. Gaël Simon l'a dit lui-même, à transformer l'élection présidentielle en une course de petits chevaux. Je crois que la démocratie mérite mieux.
François, bonsoir.
Oui, François de Luçon.
Pour ma bienvenue.
Part, je François de Luçon.
Oui, bienvenue.
Pour ma part, je pense que les sondeurs font bien leur métier, car auparavant, les sondeurs étudiaient des intentions de vote. Alors qu'actuellement, à cause des primaires, il y a des votes tactiques qui sont imprévisibles. Les gens votent pour, non pas pour une personne, mais contre une autre personne. Comment voulez-vous qu'ils se retrouvent à bien calculer ces mouvements d'électeurs qui sont imprévisibles et qu'on ne retrouve sur aucune revue et qui se font de façon quasi instantanée? Pour la primaire de droite, il y a des gens qui sont venus de gauche pour éliminer Sarkozy uniquement, et non pas pour voter un tel ou un tel. Et à l'inverse, là actuellement, il y a des gens peut-être de droite qui sont venus voter à gauche uniquement pour placer Hamon, qui aurait légitimement moins de chances de gagner que Valls s'il y avait une lutte à l'élection présidentielle. Donc comment voulez-vous que des sondeurs se retrouvent avec ce jeu de chat et de souris?
Merci François pour cette description absolument parfaite de l'électeur stratège, voire hyper stratège, qui se rend à l'élection non pas pour élire un tel, mais pour, avec son vote, éliminer en pensant que, etc., etc. Gaël Slimane et Bruno Jambard.
Alors, c'est très pertinent, effectivement, ce qui vient d'être dit, moins sur le fait que les électeurs chercheraient, dans le cas de Hamon par exemple, chercheraient à faire élire le plus mauvais du camp adverse. Ça, dans les enquêtes, on n'observe pas ce phénomène. En revanche, il y a une possibilité qui est donnée aux électeurs de participer à une primaire, de se choisir le futur champion d'un camp. Eh ben, ils vont choisir celui qu'ils préfèrent ou qu'ils jugent le moins mauvais. Et c'est vrai que c'est très facile, je crois que Bruno Jambard le disait tout à l'heure, c'est très facile pour un électeur de droite de passer, après un débat, de Juppé à Fillon. Mais je redis une chose importante. Je pense qu'à un moment donné, notre métier consiste à dire ce que l'on sait, et je pense que je vais rejoindre, y compris les contradicteurs, les opposants des sondages, notre métier consiste à dire ce que l'on sait, ce que l'on juge tangible dans nos mesures, en termes de prévision, et ce sur quoi nous sommes impuissants. En l'occurrence, sur la primaire de gauche, par exemple, nous n'avons jamais dit que ça ne, que ce serait une élection gagnée d'avance pour Manuel Valls, bien au contraire, et que ce serait un match à trois avec un Hamon qui progressait fortement. Idem sur la primaire de droite. Donc il faut, à mon avis quand même, sur notre mea culpa sondagier, assumer...
Il est léger, hein.
Non, mais assumer une chose, Nicolas. Assumer que, de toute façon, notre outil qui sert à comprendre les phénomènes et à essayer de les expliquer est aussi utilisé un petit peu comme un pronostic, même si nous nous en défendons. Donc, il faut très clairement que l'on puisse dire.
Mais quand vous sondez la présidentialité de tel candidat, les souhaits de victoire, les pronostics, ne dites pas que vous faites pas des choses prédictives, Gaël Sliman.
Non, les chiffres ne sont pas prédictifs. En revanche,
ah oui, bah les enquêtes le sont, oui.
En revanche,
qui imaginez-vous président de la République ? Est-ce que machin est plus présidentiel que truc, etc.
Oui,
ne me dites pas que vous jouez pas avec la ligne jaune.
Non, mais c'est pas une question de ligne jaune. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des éléments sur lesquels nous pouvons être solides dans ce que nous disons sur un taux de participation à la primaire de droite. Vous voyez, je me suis pas risqué à le faire sur la primaire de gauche parce que j'estimais que nous n'en étions pas capables. Voilà. Donc sur la primaire de droite, on pensait être solide dans nos mesures de prévision.
Vous avez eu des demandes de médias, Gaël Sliman, qui vous ont dit on veut des sondages sur la primaire de gauche. Vous avez dit ah non. Non, ça, éthiquement, statistiquement,
c'est pas une question
ça n'est pas possible, je refuse la commande.
Non, c'est pas une question d'éthiquement, c'est que techniquement, on ne pouvait pas, selon nous, estimer correctement les scores en termes d'intention de vote à la primaire de gauche, établir des préférences, des souhaits éventuellement, et on ne pouvait pas non plus établir une prévision de participation solide. C'est ce que nous pensions à Odoxa, je veux dire. Sur la primaire de droite, oui, on a pu le faire.
Mais une entreprise de sondage, c'est pas un institut en fait, c'est une entreprise de sondage. Institut, c'est pour faire scientifique. Une entreprise de sondage, donc vous, la vôtre, Gaël Sliman, a refusé des contrats et des marchés pour la primaire de gauche mais en disant techniquement, on peut pas faire.
Bah bien évidemment, mais ça arrive constamment que des clients nous commandent des études auxquelles nous ne pouvons pas répondre.
Et là, vous les renvoyez chez Opinionway,
par exemple.
Bruno Jambard.
Non mais nous, on n'a pas refusé ça. Si on peut travailler sur la primaire de droite, on peut travailler sur la primaire de gauche. Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir faire l'un et l'autre.
Pas d'état d'âme.
Donc voilà. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi je pense que sur le caractère prédictif, faut distinguer deux choses. Il y a les enquêtes qui sont relativement loin du scrutin. Effectivement, elles peuvent pas être prédictives. Elles mesurent à un moment donné, au moment où on est dans la campagne, quel est le rapport de force. Puis il y a les enquêtes qui sont faites tout à la fin de la campagne. Et là, évidemment, qu'on nous demande de donner des résultats qui doivent expliquer ou qui doivent être proches de ce qui va se passer le dimanche et ce qui va sortir des urnes. Donc quand ça ne l'est pas, il y a un problème, ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise mesure. Alors après, la difficulté, c'est toujours la même. C'est, encore une fois, de faire comprendre qu'on ne peut pas, quoi qu'il arrive, mesurer au point près. Ça n'a pas de sens. En revanche, s'il y a des écarts trop importants, c'est évidemment une problématique. Après, il faut aussi dire une chose, c'est que les questions sur les sondages sur les primaires sont très particuliers parce qu'on est sur des petits corps électoraux. Et quand on est sur un petit corps électoral, automatiquement, on augmente la marge d'erreur de l'enquête que l'on réalise.
Jean-Yves Dormagin, la dernière minute vous revient.
Bah écoutez, merci. Alors, je crois que si les sondages ne sont pas prédictifs et ne peuvent pas établir des résultats au point près, je crois qu'il serait sain de ne pas jouer avec les sondages comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple de ne pas mettre un candidat devant l'autre à un point de différence comme c'est le cas en ce moment. J'invite les auditeurs qui ne l'ont pas déjà fait à aller consulter certains de ces sondages sur le web, ils verront. Je veux dire que on fait passer un candidat devant l'autre à un point près. Alors mettons les marges d'erreur, disons que les candidats sont entre 7 et 13%, sont entre 42 et 45%,
hein,
etc. Et donc, on réduira un peu, ça sera moins comestible, donc sans doute ça aura moins de valeur marchande, mais ça réduira un petit peu cette course de petits chevaux qui, me semble-t-il, nuit plus au débat démocratique qu'elle ne le favorise aujourd'hui.
Eh bien, merci à tous les trois, Gaël Sliman, Bruno Jambard, Jean-Yves Dormagin, et merci à vous, amis auditeurs d'Inter, énorme échantillon ce soir au Standard. Le journal à suivre.